merci d'avoir choisi la Radio du Monde, Radio France Internationale, pour vous informer. Il est 4h en temps universel, 6h à Paris. Et le journal vous est présenté par Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Et bonjour Vincent et bonjour à tous. Des menaces de destruction totale au cessez-le-feu. Donald Trump annonce un cessez-le-feu de 2 semaines sous réserve de la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Le régime iranien confirme ce cessez-le-feu. On va revenir sur ces annonces ces dernières heures. Alors qu'Israël dément de son côté les informations du Pakistan, médiateur dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis, et qui avait affirmé que le Liban était inclus dans cet accord de cessez-le-feu. On reviendra également sur le transfert en France après des mois bloqués à l'ambassade de France à Téhéran de Jacques Paris et Cécile Kohler qui sont donc libres. Ils sont attendus en France après un passage en Azerbaïdjan hier. Autre libération cette fois en Centrafrique. Près de 2 ans après son arrestation, le chercheur et humanitaire belgo-portugais Joseph Figueira a été libéré. Il a quitté Bangui hier. Et puis du sport à la fin de ce journal, le coup d'envoi hier soir des quarts de finale de la Ligue des Champions. Première manche perdue par le Real Madrid à domicile. Le Bayern Munich s'impose. À suivre ce soir PSG Liverpool en intégrale sur RFI. Il aura égrené les menaces et les commentaires guerriers jusqu'à la dernière ligne droite. Donald Trump a finalement annoncé il y a quelques heures un cessez-le-feu de 2 semaines avec l'Iran en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz que la République islamique a par la suite confirmé. Les autorités iraniennes évoquent même ce matin des pourparlers à partir de vendredi avec Washington sous l'égide du Pakistan. Donald Trump qui avait menacé d'anéantir la civilisation iranienne dès cette nuit. Il a donc mis ses plans sur pause et dit avoir reçu un plan en 10 points de la part de Téhéran, Michael Ponge.
L'annonce est tombée un peu plus d'une heure avant la fin de l'ultimatum qu'il avait fixé. Sur son réseau social, Donald Trump écrit avoir accepté de suspendre, je cite, la puissance destructrice qu'il entendait déployer contre l'Iran et annonce un cessez-le-feu de 2 semaines, mais à une condition et sous réserve, précise le président américain qui s'est entretenu avec le premier ministre du Pakistan, pays médiateur dans ce dossier, que le détroit d'Ormuz rouvre immédiatement et de façon sécurisée. Un cessez-le-feu réciproque, clame en lettres capitales Donald Trump, confirmé quelques minutes plus tard par le chef de la diplomatie iranienne. Téhéran accepte de rouvrir le stratégique détroit si les attaques israélo-américaines cessent, fait savoir Téhéran. Le régime iranien, par un communiqué du Conseil suprême de sécurité nationale qui affirme avoir remporté une grande victoire et contraint les États-Unis à accepter son plan en 10 points, une base viable pour négocier une paix à long terme pour le Moyen-Orient, assure de son côté Donald Trump, qui affirme que tous les objectifs militaires américains ont d'ores et déjà été atteints.
Et les précisions de Michael Ponge. Et ce matin, Israël dit soutenir les efforts américains pour s'assurer que l'Iran ne représente plus de menace nucléaire, mais dément en revanche le fait que le cessez-le-feu inclut le Liban, ce qui avait été annoncé par le Pakistan et confirmé par des sources au sein de la Maison-Blanche citées par la presse israélienne. La guerre au Liban où les forces américaines ne sont pas impliquées. Israël mène depuis le 2 mars dernier une opération militaire contre le Hezbollah libanais, opération qui a déjà fait plus de 1500 morts. L'armée israélienne a étendu le territoire qu'elle occupe illégalement dans le sud du Liban. Hier, une frappe israélienne a visé la ville de Saïda. Le ministère libanais de la Santé fait état de 8 civils tués et 22 blessés. Des attaques contre des civils qui sont constitutives d'un crime de guerre selon le droit international, tout comme les pillages, les destructions de biens civils, la prise d'otages ou encore les violences sexuelles. Sarah Krakowicz, encore faut-il documenter précisément ces crimes et prendre en compte leur contexte.
Selon les conventions de Genève signées par les États-Unis, les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles. Mais Julia Grignon, professeure associée en droit international humanitaire, explique qu'une infrastructure civile peut devenir un objectif militaire selon sa position.
Un pont, c'est un bien de caractère civil. Mais si en raison de son emplacement, il apporte une contribution à l'armée ennemie parce qu'il sert de voie de ravitaillement, alors attaquer ce pont peut procurer un avantage militaire à celui qui l'attaque. Ça veut dire que le pont est devenu un objectif militaire. Et donc, on peut l'attaquer, ça serait attaquer un objectif militaire, et donc ça ne serait pas un crime de guerre. Il faut savoir précisément à quoi servait ce pont au moment où il a été attaqué pour pouvoir décider si oui ou non c'est une violation du droit international. international humanitaire et éventuellement un crime de guerre.
Au premier jour de la guerre, le 28 février, une frappe imputée aux États-Unis a touché une école en Iran et fait au moins 175 victimes. Pour Julia Grignon, cela constitue un crime de guerre.
On a pu penser qu'il y avait une erreur. Aujourd'hui, il y a des éléments qui montrent qu'il était évident que c'était une école dans laquelle il y avait des enfants et qu'en plus, il y a eu deux frappes. Et donc, tout porte à croire que l'armée américaine qui a procédé à cette frappe a agi en toute connaissance de cause, en sachant que c'était une école, donc un bien à caractère civil, et donc a commis un crime de guerre en l'attaquant.
Parmi les nombreuses infrastructures civiles frappées, certaines sont donc bien contraires au droit international.
Sarah Krakowicz, et c'est dans ce contexte que eux sont arrivés hier à Bakou, en Azerbaïdjan. Les Français Jacques Paris et Cécile Kohler, libérés de la prison d'Evin de Téhéran en novembre 2025, ils étaient depuis bloqués à l'ambassade française de Téhéran. Leur retour en France a été annoncé hier par les autorités françaises, confirmé par le régime iranien. Invité de France 2 hier soir, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a donné très peu de détails sur les conditions de leur libération.
Vous savez, c'est un travail de longue haleine. Ça fait un an et demi que nous travaillons sur le sujet. Nous avons exploré de nombreux scénarios. Et ce sont des discussions qui sont sensibles, qui sont par nature confidentielles et qui doivent le rester. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en aucun cas et d'aucune manière, nous n'avons, par exemple, puisque j'ai vu que certains étaient tentés de le reprocher à la France, mêlé le sort de nos otages, qui était une priorité absolue pour nous, avec les choix de politique étrangère de la France.
Et Jean-Noël Barrot qui a refusé de commenter le possible échange entre les deux Français et l'Iranienne Mahdieh Esfandiari, arrêtée en France il y a plus d'un an, accusée notamment d'apologie du terrorisme. Son assignation à résidence a été levée, selon son avocat, quelques heures après le départ d'Iran de Jacques Paris et Cécile Kohler. Dans une heure sur notre antenne, Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut géopolitique européen, sera au micro d'Andréane Mellard pour revenir sur ces libérations qui interviennent dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient et de ce cessez-le-feu annoncé il y a quelques heures par Donald Trump, confirmé par l'Iran. Vous suivez les derniers développements évidemment sur le live dédié sur RFI.fr, et puis on reviendra aussi ce matin sur les prix du pétrole qui dévissent après l'annonce de ce cessez-le-feu. Moins 15% sur les marchés asiatiques. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, est passé sous les 93 $, alors que les bourses asiatiques ouvrent toutes ce matin en nette hausse. On va parler à présent d'une autre libération. Près de 2 ans après son arrestation dans le sud-est de la Centrafrique, le chercheur et humanitaire belgo-portugais Joseph Figueira a été libéré. Il a quitté Bangui hier. En mai 2024, il avait été arrêté par les hommes de Wagner, puis condamné en novembre dernier à 10 ans de travaux forcés, notamment pour atteinte à la sûreté de l'État. Il avait toujours réfuté les accusations de collusion avec les groupes rebelles. Sa libération pourrait être un geste vis-à-vis de l'Union européenne. Précision, François Mazé.
C'est en toute discrétion que Joseph Figueira a quitté la cellule du camp de Roux dans laquelle il était enfermé depuis plus de 22 mois. Chercheur et humanitaire expérimenté, spécialiste du monde peul et des transhumances, il a pris place à bord d'un avion militaire qui l'a emmené retrouver sa famille à Lisbonne, comme l'a annoncé le ministre portugais des Affaires étrangères au cours d'une audition parlementaire. Cette libération intervient la semaine suivant le début effectif du troisième mandat du président Touadéra, et plusieurs sources l'analysent comme un geste à destination de l'Union européenne, principal bailleur du pays. Elle fait suite à une intensification des démarches diplomatiques du Portugal, très impliqué en Centrafrique, avec notamment plus de 200 militaires déployés au sein de la mission de l'ONU. Fin février, le président Marcelo Rebelo de Sousa s'était rendu à Bangui au dernier jour de son mandat, et il avait été frustré, selon plusieurs sources, de repartir sans son compatriote. Le travail a été repris par son successeur Antonio Seguro. Selon le site africain Intelligence, des contacts téléphoniques quasi quotidiens ont eu lieu avec le président Touadéra depuis la fin de semaine dernière.
François Mazet du service Afrique d'RFI. C'est une élection qui sera particulièrement suivie en Europe. Dimanche, les Hongrois sont appelés aux urnes pour les élections législatives. Le Fidesz du parti, le parti de Viktor Orban, est au coude à coude avec l'opposition dans les sondages. Le Fidesz qui soigne tout particulièrement l'électorat hongrois qui vit en Roumanie, à Bucarest. Explication ce matin de Guillaume Bernès.
Construction d'écoles, de logements, de centres culturels et sportifs. Ces dernières années, le gouvernement hongrois de Viktor Orban a multiplié le financement de projets chez son voisin roumain. Une stratégie payante, selon le politologue Sergiu Mișcoiu.
L'aide aux Magyars de l'étranger a permis à Viktor Orban de se targuer d'être le grand rassembleur des communautés hongroises au-delà des frontières. Il réussit de cette manière à mobiliser les voix des nationalistes hongrois de Hongrie.
En Roumanie, le jeune parti d'opposition hongrois Tisza est encore peu connu. Son réseau local se concentre dans une poignée de villes et la dernière visite dans le pays de Péter Maghiar, son chef de file, remonte à plus d'un an.
Fidesz a investi énormément dans l'électorat hongrois de Transylvanie et il est fort probable que la majorité vote avec le Fidesz. Ceci dit, il y a une progression de l'opposition qui n'est pas à la hauteur de la progression en Hongrie, mais qui existe aussi parmi les citoyens hongrois de Roumanie.
Un peu plus de 310 000 Hongrois sont inscrits en Roumanie pour voter ce dimanche. Guillaume Bernès, Bucarest, RFI.
Et ce dimanche, Viktor Orban vise un cinquième mandat après 16 ans de pouvoir. La matinale d'RFI sera à Budapest lundi prochain pour une édition spéciale délocalisée pour analyser les résultats de ce scrutin. Il va tenter de désamorcer les différends après la décision controversée du jury d'appel de la CAF de faire du Maroc le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations sur tapis vert. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est à Dakar aujourd'hui avant de se rendre au Maroc. La Fédération sénégalaise de football qui a saisi le tribunal arbitral du sport sur ce dossier compte bien présenter ses arguments à Patrice Motsepe lors de leur rencontre programmée ce matin avec notamment le président de la Fédération sénégalaise Abdoulaye Fall. Et alors qu'on n'attend pas de décision du tribunal arbitral du sport avant plusieurs semaines, les sports toujours mais cette fois sur les terrains et le coup d'envoi hier soir des quarts de finale de la Ligue des Champions. Première manche perdue par le Real Madrid à domicile au Bernabéu où le Bayern Munich s'impose 2-1. Le Sporting Portugal s'est incliné 1-0 face à Arsenal. À suivre ce soir sur RFI, PSG Liverpool. Cédric de Oliveira sera au Parc des Princes, coup d'envoi de la rencontre à suivre en intégrale sur notre antenne 21h, heure de Paris.
RFI, toute l'actualité.
Jeanne Bartoli.
6h12, à l'écoute d'RFI, vous restez avec nous. On est ensemble pour 20 minutes d'infos et de reportages qui vont nous emmener au Vietnam. La capitale, Hanoï, est en plein chantier. Les autorités veulent la moderniser. Stade géant, opéra, les riverains observent un peu inquiets tous ces bouleversements. Nous serons un peu aussi à Londres avec Emeline Vin, avec un double rebondissement dans l'affaire de la venue du rappeur Kanye West au festival Wireless en Angleterre cet été. Eh bien, le festival est annulé. Le ministère de l'Intérieur britannique a interdit à Kanye West l'entrée au Royaume-Uni en cause de multiples dérapages, dont des propos antisémites. L'invité culture d'RFI, l'acteur ivoirien Isaac de Bankole, qui tourne dans le dernier film de Claire Denis. Et puis le Conseil Santé, Caroline Paré, nous parle ce matin de la prématurité. Avant. Direction donc Hanoï, la capitale du Vietnam veut s'imposer comme une mégapole internationale. Elle prévoit notamment la construction d'un immense stade en périphérie de la ville et d'un opéra luxueux, symbole de soft power pour le régime. Hanoï qui change de visage à très grande vitesse, au point d'inquiéter certains riverains. Reportage de notre correspondant au Vietnam, Jean-Pierre Fage.
Un opéra à l'allure futuriste, coiffé d'un dôme inspiré de coquilles d'huile. Ce nouveau lieu culturel pourrait devenir un symbole fort de soft power devant le chantier dans le quartier de Tae Ho. C'est dans le lac de l'Ouest d'où se reflètent temples bouddhistes et villas au style indo-chinois. En bord de rive, cette femme vend des bangtom, beignets de crevettes. Elle espère attirer plus de clientèle une fois l'opéra construit.
Oui, bien sûr, il y en aura sûrement plus. La plupart de nos clients viennent surtout pour faire des offrandes. Ils entrent dans le temple là-bas pour prier. Nous vendons des spécialités traditionnelles du quartier.
Pour mener à bien le projet, les constructeurs ont rasé une partie du quartier, suscitant la critique de riverains. Cet habitant estime que le projet d'opéra pourrait perturber la vie locale.
Les habitants vivent ici depuis longtemps, parce que les zones autour sont d'anciens villages. Ici, il y a des ensembles de pratiques culturelles et de traditions anciennes, donc les habitants sont installés ici depuis longtemps. Ils ne veulent pas changer leur environnement de vie.
À Tejo, quartier prisé où le foncier a flambé, de nombreux riverains questionnent aussi les indemnisations liées aux expropriations. Les autorités assurent respecter la loi foncière réformée en 2024 qui prévoit notamment un rôle accru de l'État dans la régulation des prix et des procédures simplifiées pour les investisseurs. Pour Quang Hung, ancien diplomate vietnamien, la tension entre modernité et préservation du patrimoine.
tu fais la teuf quand t'es qu'une épave. Même si tu fais gaffe en voiture ou en bécane, ou sous l'effet de la peur. La vie c'est pas du playback, ni un texte qu'on connaît par cœur. Car quand les rideaux s'écartent, il n'y a plus que des spectateurs. Ouais, pour combler le calme, y a ceux qui pleurent et ceux qui rient aux éclats. On aura tous notre spectacle, notre dernier acte où on va devoir être l'acteur. En attendant des gens respectables et des êtres aimés partout. Je me dis que la mort est un prédateur. Elle laisse des traces comme le Big Bang. T'endurcis ou te tue psychiquement. Elle donne un tas de sursis et pas subitement. Elle attaque par surprise et ne laissera aucun survivre.
Ouais, on marche tant qu'on a encore des rêves. Tant que nos torches éclairent. Ouais, je te le dis qu'on marche. On marche et chacun porte ses peines. Mais à l'édifice apporte ses pierres. Ouais, je te le dis qu'on marche tant qu'on sent pas que dans le corps c'est dead. Avant que nos forces s'éteignent. Ouais, je te le dis qu'on marche. On marche, on est des hommes, mais merde, on avance vers une mort certaine.
Elle provoque la tristesse et le deuil tout autour d'elle. Allons à court terme, elle tire un rideau sur nos lives et frappe n'importe où sur un coup de tête. Elle peut te faire passer du rire aux larmes, y'a pas plus sûr qu'elle. Elle n'est pas de tout repos, elle ne s'arrête pas. Et ta fin temps plein, c'est le dernier tremplin. On y a droit, tour de rôle, elle a de l'entrain. Furieuse, aspire de grandes craintes, ingénieuse. Vu le nombre de styles qu'elle emprunte. Elle prend des rencarts sans prévenir. Elle dîne à la même table que la haine et la zermie dans le même plat. C'est elle qui le termine, elle a le don de clôturer le bal et t'envoyer dans une grosse berline. Certains l'attendent de pied ferme, d'autres doutent qu'elle passe. Personne peut y échapper même si t'as trafiqué le pass. Sert à rien de zigzaguer si elle te vise la tête. T'es condamné à te faire chicler classe.
Ouais, on marche tant qu'on a encore des rêves. Tant que nos torches éclairent. Ouais, je te le dis qu'on marche. On marche et chacun porte ses peines. Mais à l'édifice apporte ses pierres. Ouais, je te le dis qu'on marche tant qu'on sent pas que dans le corps c'est dead. Avant que nos forces éteignent. Ouais, je te le dis qu'on marche. On marche, on est des hommes, mais merde. On avance vers une mort certaine.
On dit d'elle qu'elle ne se dévoile pas, qu'elle est plutôt pudique. Elle ne parle pas sur ses projets, jamais elle se montre en public. Elle aime être discrète, mais qu'elle est franche, elle met pas de disquette. En dehors de son taf, tout le reste pour elle est futile. Elle nous a tous pour clients, ouais, elle fait même des tarifs de groupe. Elle fait pas de sentiments, elle a libre cours. Mieux vaut être loin avant qu'elle pète les barils de poudre. Eh, gousse, certains la kiffent, d'autres ont du dégoût.
Avant de passer, elle n'indique pas l'ombre d'une piste. Et se moque de tes bonnes ou tes mauvaises actions. Elle s'invite par surprise et son travail est sujet à de nombreuses observations. Pour elle c'est toujours l'heure du crime. En plus l'homme avance en creusant sa tombe. On avance avec la peur du vide. Je vous le demande, on marche mais où va-t-on?
Ouais, on marche tant qu'on a encore des rêves. Tant que nos torches éclairent.
Ouais, je te le dis qu'on marche. On marche et chacun porte ses peines. Mais à l'édifice apporte ses pierres. Ouais, je te le dis qu'on marche tant qu'on sent pas que dans le corps c'est dead. Avant que nos forces éteignent. Ouais, je te le dis qu'on marche. On marche, on est des hommes, mais merde. On avance vers une mort certaine.